Consuelo, livre 3, chapitre 73. Dès que le comte Auditz se trouva seul avec ses musiciens, il se sentit plus à l'aise et devint tout à coup communicatif. Sa manie favorite était de trancher du maître de chapelle et de jouer le rôle d'impresario. Il voulut donc, sur le champ, commencer l'éducation de Consuelo. « Viens ici, lui dit-il, et assieds-toi. Nous sommes entre nous et l'on n'écoute pas avec attention quand on est à une lieue les uns des autres. « Asseyez-vous aussi, dit-il à Joseph, et faites votre profit de la leçon. Tu ne sais pas faire le moindre trille, reprit-il en s'adressant de nouveau à la grande cantatrice. Écoutez bien, voici comment cela se fait. » Et il chanta une phrase banale où il introduisit, d'une manière fort vulgaire, plusieurs de ses ornements. Consuelo s'amusa à redire la phrase en faisant le trille en sens inverse.
« Ce n'est pas cela !»
cria le comte d'une voix de stentor en frappant sur la table. « Vous n'avez pas écouté !» Il recommença, et Consuelo tronqua l'ornement d'une façon plus baroque et plus désespérante que la première fois, en gardant son sérieux et affectant un grand effort d'attention et de volonté. Joseph étouffait et feignait de tousser pour cacher un rire convulsif.
« La, 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 tra-la, la, la !»
chanta le comte en contrefaisant son écolier maladroit et en bondissant sur sa chaise, avec tous les symptômes d'une indignation terrible qu'il n'éprouvait pas le moins du monde, mais qu'il croyait nécessaire à la puissance et à l'entrain magistral de son caractère. Consuelo se moqua de lui pendant un bon quart d'heure, et quand elle en eut assez, elle chanta le trille avec toute la netteté dont elle était capable.
« Bravo! Bravissimo !» s'écria le comte en se renversant sur sa chaise. « Enfin, c'est parfait! Je savais bien que je vous le ferais faire. Qu'on me donne le premier paysan venu, je suis sûre de le former et de lui apprendre en un jour ce que d'autres ne lui apprendraient pas dans un an. Encore cette phrase, et marque bien toutes les notes. » Avec légèreté, sans avoir l'air d'y toucher. C'est encore mieux. On ne peut mieux. Nous ferons quelque chose de toi. » Et le comte s'essuya le front, quoiqu'il n'y eût pas une goutte de sueur. « Maintenant, reprit-il, la cadence avec chute et tour de gosier. » Il lui donna l'exemple, avec cette facilité routinière que prennent les moindres choristes à force d'entendre les premiers sujets, n'admirant dans leur manière que les jeux du gosier et se croyant aussi habiles qu'eux parce qu'ils parviennent à les contrefaire. Consuelo se divertit encore à mettre le comte dans une de ces grandes colères de sang-froid qu'il aimait à faire éclater lorsqu'il galopait sur son dada et finit par lui faire entendre une cadence si parfaite et si prolongée qu'il fut forcé de lui crier « Assez, assez, c'est fait, vous y êtes maintenant. J'étais bien sûr que je vous en donnerais la clé. Passons donc à la roulade. Vous apprenez avec une facilité admirable, et je voudrais avoir toujours des élèves comme vous. »
Consuelo, qui commençait à sentir le sommeil et la fatigue la gagner, abrégea de beaucoup la leçon de roulade. Elle fit toute celle que lui prescrivit l'opulent pédagogue, avec docilité, de quelque mauvais goût qu'elle fût, et laissa même résonner naturellement sa belle voix, ne craignant plus de se trahir, puisque le comte était résolu à s'attribuer jusqu'à l'éclat subi et à la pureté céleste que prenait son organe de moment en moment.
« Comme cela s'éclaircit à mesure que je lui montre comment il faut ouvrir la bouche et porter la voix !»
disait-il à Joseph en se retournant vers lui d'un air de triomphe.
La clarté de l'enseignement, la persévérance, l'exemple, voilà les trois choses avec lesquelles on forme des chanteurs et des déclamateurs en peu de temps. Nous reprendrons demain une leçon, car nous avons 10 leçons à prendre, au bout desquelles vous saurez chanter. Nous avons le couler, le flatter, le port de voix tenu et le port de voix achevé, La chute, l'inflexion tendre, le martèlement gai, la cadence feinte, etc., etc. Allez prendre du repos. Je vous ai fait préparer des chambres dans ce palais. Je m'arrête ici pour mes affaires jusqu'à midi. Vous déjeunerez et vous me suivrez jusqu'à Vienne. Considérez-vous dès à présent comme étant à mon service. Pour commencer, Joseph, allez dire à mon valet de chambre de venir m'éclairer jusqu'à mon appartement. « Toi, » dit-il à Consuelo, « reste et recommence-moi la dernière roulade que je t'ai enseignée. Je n'en suis pas parfaitement content. » À peine Joseph fut-il sorti que le comte, prenant les deux mains de Consuelo avec des regards fort expressifs, essaya de l'attirer près de lui. Interrompu dans sa roulade, Consuelo le regardait aussi avec beaucoup d'étonnement, croyant qu'il voulait lui faire battre la mesure. Mais elle lui retira brusquement ses mains et se recula au bout de la table en voyant ses yeux enflammés et son sourire libertin. « Allons, vous voulez faire la prude ?» dit le comte en reprenant son air indolent et superbe. « Eh bien, ma mignonne, nous avons un petit amant. Il est fort laid, le pauvre air, et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous y renoncerez. Votre fortune est faite si vous n'hésitez pas, car je n'aime pas les lenteurs. Vous êtes une charmante fille, pleine d'intelligence et de douceur. Vous me plaisez beaucoup. Et dès le premier coup d'œil que j'ai jeté sur vous, j'ai vu que vous n'étiez pas faite pour courir la prétentaine avec ce petit drôle. J'aurai soin de lui pourtant. Je l'enverrai à Roswald et je me charge de son sort. Quant à vous, vous resterez à Vienne. Je vous y logerai convenablement. Et même, si vous êtes prudente et modeste, je vous produirai dans le monde. » Quand vous saurez la musique, vous serez la prima donna de mon théâtre et vous reverrez votre petite amie de rencontre quand je vous mènerai à ma résidence. Est-ce entendu ? Oui, monsieur le comte, répondit Consuelo avec beaucoup de gravité et en faisant un grand salut. C'est parfaitement entendu. Joseph rentra en cet instant avec le valet de chambre qui portait deux flambeaux et le comte sortit en donnant un petit coup sur la joue de Joseph et en adressant à Consuelo un sourire d'intelligence. « Il est d'un ridicule achevé !» dit Joseph à sa compagne dès qu'il fut seul avec elle. « Plus achevé encore que tu ne penses !» lui répondit-elle d'un air pensif. « C'est égal, c'est le meilleur homme du monde et il me sera fort utile à Vienne. » « Oui. » À Vienne, tant que tu voudras, Beppo. Mais à Passau, il ne le sera pas le moins du monde, je t'en avertis. Où sont nos effets, Joseph ? Dans la cuisine, je vais les prendre pour les monter dans nos chambres, qui sont charmantes à ce qu'on m'a dit. Vous allez donc enfin vous reposer. Bon, Joseph, dit Consuelo en haussant les épaules. Allons, reprit-elle. « Va vite chercher ton paquet et renonce à ta jolie chambre et au bon lit où tu prétendais si bien dormir. Nous quittons cette maison à l'instant même. M'entends-tu ? Dépêche-toi, car on va sûrement fermer les portes. » Hyde crut rêver. « Par exemple, s'écria-t-il, ces grands seigneurs seraient-ils aussi des racoleurs ?»« Je crains encore plus le Auditz que le Meyer, » répondit Consuelo avec impatience. « Allons, cours, n'hésite pas, ou je te laisse et je pars seul. » Il y avait tant de résolution et d'énergie dans le ton et la physionomie de Consuelo que Hind, éperdu et bouleversé, lui obéit à la hâte. Il revint au bout de 3 minutes avec le sac qui contenait les cahiers et les hardes. Et 3 minutes après, sans avoir été remarqué de personne, ils étaient sortis du palais et gagnaient le faubourg à l'extrémité de la ville. Ils entrèrent dans une chétive auberge et louèrent 2 petites chambres qu'ils payèrent d'avance afin de pouvoir partir d'aussi bonne heure qu'ils voudraient sans éprouver de retard. « Ne me direz-vous pas au moins le motif de cette nouvelle alerte ?» demanda Hyde à Consuelo en lui souhaitant le bonsoir sur le seuil de sa chambre. « Dors tranquille, » lui répondit-elle, « et apprends en 2 mots que nous n'avons pas grand-chose à craindre maintenant. » Monsieur le comte a deviné avec son coup d'œil d'aigle que je ne suis point de son sexe, et il m'a fait l'honneur d'une déclaration qui a singulièrement flatté mon amour-propre. Bonsoir, ami Beppo. Nous décampons avant le jour. je secouerai ta porte pour te réveiller. » Le lendemain, le soleil levant éclaira nos jeunes voyageurs, voguant sur le Danube et descendant son cours rapide avec une satisfaction aussi pure et des cœurs aussi légers que les ondes de ce beau fleuve. Ils avaient payé leur passage sur la barque d'un vieux batelier qui portait des marchandises à Linz. C'était un brave homme dont ils furent contents et qui ne gêna pas leur entretien. Ils n'entendaient pas un mot d'italien. Et son bateau étant suffisamment chargé, il ne prit pas d'autres voyageurs, ce qui leur donna enfin la sécurité et le repos de corps et d'esprit dont ils avaient besoin pour jouir complètement du beau spectacle que présentait leur navigation à chaque instant. Le temps était magnifique. Il y avait dans le bateau une petite cale, fort propre, où Consuelo pouvait descendre pour reposer ses yeux de l'éclat des eaux. Mais elle était si bien habituée les jours précédents au grand air et au grand soleil qu'elle préféra passer presque tout le temps couchée sur les ballots, occupée délicieusement à voir courir les rochers et les arbres du rivage qui semblaient fuir derrière elle. Elle put faire de la musique à loisir avec Hind, et le souvenir comique du mélomane Oditz, que Joseph appelait le maestromane, mêla beaucoup de gaieté à leur ramage. Joseph le contrefaisait à merveille et ressentait une joie maligne à l'idée de son désappointement. Leurs rires et leurs chansons égayaient et charmaient le vieux notonnier, qui était passionné pour la musique comme tout prolétaire allemand. Il leur chanta aussi des airs auxquels ils trouvèrent une physionomie aquatique et que Consuelo apprit de lui ainsi que les paroles. Ils achevèrent de gagner son cœur en le régalant de leur mieux au premier abordage où ils firent leur provision de bouche pour la journée. Et cette journée fut la plus paisible et la plus agréable qu'ils eussent encore passée depuis le commencement de leur voyage. « Excellent baron de Twink !» disait Joseph en échangeant contre de la monnaie une des brillantes pièces d'or que ce seigneur lui avait données. « C'est à lui que je dois de pouvoir soustraire enfin la divine Porporina à la fatigue, à la famine, au danger, à tous les maux que la misère traîne à sa suite. Je ne l'aimais pourtant pas d'abord, ce noble et bienveillant baron. « Oui, dit Consuelo, vous lui préfériez le comte. Je suis heureuse maintenant que celui-ci se soit borné à des promesses et qu'il n'ait pas souillé nos mains de ses bienfaits. Après tout, nous ne lui devons rien, reprenait Joseph. Qui a eu le premier la pensée et la résolution de combattre les recruteurs? C'est le baron. Le comte ne s'en souciait pas et n'y allait que par complaisance et par ton. Qui a couru de risques et reçu une balle dans son chapeau, bien près du crâne? Encore le baron. Qui a blessé et peut-être tué l'infâme Pistola? Le baron. Qui a sauvé le déserteur? À ses dépens peut-être, et en s'exposant à la colère d'un maître terrible? Enfin, qui vous a respecté et n'a pas fait semblant de reconnaître votre sexe? Qui a compris la beauté de vos airs italiens et le goût de votre manière? Et le génie de maître Joseph Hind, ajouta Consuelo en souriant. Le baron, toujours le baron. Sans doute, reprit Hind pour lui rendre sa maligne insinuation. Et il est bien heureux, peut-être, pour un noble et cher absent dont j'ai entendu parler, que la déclaration d'amour à la divine Porporina soit venue du comte ridicule, au lieu d'être faite par le brave et séduisant baron. « Beppo, » répondit Consuelo avec un sourire mélancolique, « les absents n'ont tort que dans les cœurs ingrats et lâches. Voilà pourquoi le baron, qui est généreux et sincère, et qui est amoureux d'une mystérieuse beauté, ne pouvait pas songer à me faire la cour. Je vous le demande à vous-même. Sacrifieriez-vous aussi facilement l'amour de votre fiancé et la fidélité de votre cœur au premier caprice venu? » Beppo soupira profondément. « Vous ne pouvez être pour personne le premier caprice venu, » dit-il. « Et... le baron pourrait être fort excusable d'avoir oublié toutes ses amours passées et présentes en vous voyant. « Vous devenez galant et doucereux, Beppo. je vois que vous avez profité dans la société de monsieur le comte. Mais puissiez-vous ne jamais épouser une margrave et ne pas apprendre comment on traite l'amour quand on a fait un mariage d'argent ? Arrivés le soir à Linz, ils y dormirent enfin sans terreur et sans souci du lendemain. Dès que Joseph fut éveillé, il courut acheter des chaussures, du linge, plusieurs petites recherches de toilettes masculines pour lui, et surtout pour Consuelo, qui put se faire brave et beau, comme elle le disait en plaisantant, pour courir la ville et les environs. Le vieux batelier leur avait dit que s'il pouvait trouver une commission pour Melk, il les reprendrait à son bord le jour suivant et leur ferait faire encore une vingtaine de lieues sur le Danube. Ils passèrent donc cette journée à Linz, s'amusèrent à gravir la colline, à examiner le château fort d'en bas et celui d'en haut, d'où ils purent contempler les majestueux méandres du fleuve au sein des plaines fertiles de l'Autriche. De là aussi, ils virent un spectacle qui les réjouit fort. Ce fut la berline du comte Auditz qui entrait triomphalement dans la ville. Ils reconnurent la voiture et la livrée et s'amusèrent à lui faire, de trop loin pour être aperçus de lui, de grands saluts jusqu'à terre. Enfin, le soir, s'étant rendus au rivage, ils y retrouvèrent leur bateau chargé de marchandises de transport pour Melk, et ils firent avec joie un nouveau marché avec leur vieux pilote. Ils s'embarquèrent avant l'aube et virent briller les étoiles sereines sur leur tête, tandis que le reflet de ces astres courait en longs filets d'argent sur la surface mouvante du fleuve. Cette journée ne fut pas moins agréable que la précédente. Joseph n'eut qu'un chagrin, ce fut de penser qu'il se rapprochait de Vienne, et que ce voyage, dont il oubliait les souffrances et les périls pour ne se rappeler que ces délicieux instants, allait bientôt toucher à son terme. À Melk, il fallut se séparer du brave pilote, et ce ne fut pas sans regret. Il ne trouvait pas dans les embarcations qui s'offrirent pour les mener plus loin les mêmes conditions d'isolement et de sécurité. Consuelo se sentait reposée, rafraîchie, aguerrie contre tous les accidents. Elle proposa à Joseph de reprendre leur route à pied jusqu'à nouvelle occurrence. Ils avaient encore 20 lieues à faire, et cette manière d'aller n'était pas fort abréviative. C'est que Consuelo, tout en se persuadant qu'elle était impatiente de reprendre les habits de son sexe et les convenances de sa position, était au fond du cœur, il faut bien l'avouer, aussi peu désireuse que Joseph de voir la fin de son expédition. Elle était trop artiste par toutes les fibres de son organisation pour ne pas aimer la liberté, les hasards, les actes de courage et d'adresse, le spectacle continuel et varié de cette nature que le piéton seul possède entièrement. Enfin, toute l'activité romanesque de la vie errante et isolée. Je l'appelle isolée, lecteur, pour exprimer une impression secrète et mystérieuse qu'il est plus facile à vous de comprendre qu'à moi de définir. C'est, je crois, un état de l'âme qui n'a pas été nommé dans notre langue, mais que vous devez vous rappeler si vous avez voyagé à pied, au loin et tout seul, ou avec un autre vous-même, ou enfin, comme Consuelo, avec un compagnon facile, enjoué, complaisant et monté à l'unisson de votre cerveau. Dans ces moments-là, si vous étiez dégagé de toute sollicitude immédiate, de tout motif inquiétant, vous avez, je n'en doute pas, ressenti une sorte de joie étrange, peut-être égoïste tant soit peu, en vous disant « À l'heure qu'il est, personne ne s'embarrasse de moi et personne ne m'embarrasse. Nul ne sait où je suis. Ceux qui dominent ma vie me chercheraient en vain. Ils ne peuvent me découvrir dans ce milieu inconnu de tous, nouveau pour moi-même où je me suis réfugié. Ceux que ma vie impressionne et agite se reposent de moi, comme moi de mon action sur eux. Je m'appartiens entièrement, et comme maître et comme esclave. Car il n'est pas un seul de nous, ô lecteur, qui ne soit à la fois, à l'égard d'un certain groupe d'individus, tour à tour et simultanément, un peu esclave, un peu maître, bon gré, mal gré, sans se l'avouer et sans y prétendre. Nul ne sait où je suis. Certes, c'est une pensée d'isolement qui a son charme. Un charme inexprimable, féroce en apparence, légitime et doux dans le fond. Nous sommes faits pour vivre de la vie de réciprocité. La route du devoir est longue, rigide, et n'a d'horizon que la mort, qui est peut-être à peine le repos d'une nuit. Marchons donc, et sans ménager nos pieds. Mais si, dans des circonstances rares et bienfaisantes, où le repos peut être inoffensif et l'isolement sans remords, un vert sentier s'offre sous nos pas, mettons à profit quelques heures de solitude et de contemplation. Ces heures nonchalantes sont bien nécessaires à l'homme actif et courageux pour retremper ses forces. Et je dis que plus votre cœur est dévoré du zèle de la maison de Dieu, qui n'est autre que l'humanité, plus vous êtes propre à apprécier quelques instants d'isolement pour rentrer en possession de vous-même. L'égoïste est seul, toujours et partout. Son âme n'est jamais fatiguée d'aimer, de souffrir et de persévérer. Elle est inerte et froide et n'a pas plus besoin de sommeil et de silence qu'un cadavre. Celui qui aime est rarement seul et quand il l'est, il s'en trouve bien. Son âme peut goûter une suspension d'activité qui est comme le profond sommeil d'un corps vigoureux. Ce sommeil est le bon témoignage des fatigues passées et le précurseur des épreuves nouvelles auxquelles il se prépare. Je ne crois guère à la véritable douleur de ceux qui ne cherchent pas à se distraire, ni à l'absolu dévouement de ceux qui n'ont jamais besoin de se reposer. Ou leur douleur est un accablement qui révèle qu'ils sont brisés, éteints, et qu'ils n'auraient plus la force d'aimer ce qu'ils ont perdu, ou leur dévouement sans relâche et sans défaillance d'activité cache quelque honteuse convoitise, quelque dédommagement égoïste et coupable dont je me méfie. Ces réflexions, un peu trop longues, ne sont pas hors de place dans le récit de la vie de Consuelo. Âme active et dévouée, s'il en fut, qu'eusse pu cependant accuser parfois d'égoïsme et de légèreté ceux qui ne savaient pas la comprendre. Chapitre 74. Le premier jour de ce nouveau trajet, comme nos voyageurs traversaient une petite rivière sur un pont de bois, ils virent une pauvre mendiante qui tenait une petite fille dans ses bras et qui était accroupie le long du parapet pour tendre la main aux passants. L'enfant était pâle et souffrant, la femme hâve et grelottant de la fièvre. Consuelo fut saisi d'un profond sentiment de sympathie et de pitié pour ces malheureux, qui lui rappelait sa mère et sa propre enfance. « Voilà comme nous étions quelquefois, » dit-elle à Joseph, qui la comprit à demi-mot et qui s'arrêta avec elle à considérer et à questionner la mendiante. « Hélas !» leur dit celle-ci, « j'étais fort heureuse encore il y a peu de jours. Je suis une paysanne des environs de Harmanitz, en Bohême. J'avais épousé il y a 5 ans un beau et grand cousin à moi, qui était le plus laborieux des ouvriers et le meilleur des maris. Au bout d'un an de mariage, mon pauvre Karl, étant allé faire du bois dans les montagnes, disparut tout à coup, et sans que personne pût savoir ce qu'il était devenu. Je tombai dans la misère et dans le chagrin. Je croyais que mon mari avait péri dans quelque précipice ou que les loups l'avaient dévoré. Quoique je trouvasse à me remarier, l'incertitude de son sort et l'amitié que je lui conservais ne me permirent pas d'y songer. Oh, que j'en fus bien récompensée, mes enfants. L'année dernière, on frappe un soir à ma porte. J'ouvre et je tombe à genoux en voyant mon mari devant moi. Mais dans quel état, bon Dieu ! Il avait l'air d'un fantôme. Il était desséché, jaune, l'œil hagard, les cheveux hérissés par les glaçons, les pieds en sang, ses pauvres pieds tout nus qui venaient de faire je ne sais combien de centaines de milles par les chemins les plus affreux et l'hiver le plus cruel. Mais il était si heureux de retrouver sa femme et sa pauvre petite fille que bientôt il reprit le courage, la santé, son travail et sa bonne mine. Il me raconta qu'il avait été enlevé par des brigands, qu'il avait mené bien loin, jusqu'auprès de la mer, et qu'il avait vendu au roi de Prusse pour en faire un soldat. Il avait vécu 3 ans dans le plus triste de tous les pays, faisant un métier bien rude et recevant des coups du matin au soir. Enfin, il avait réussi à s'échapper, à déserter, mes bons enfants. En se battant comme un désespéré contre ceux qui le poursuivaient, il en avait tué un. Il avait crevé un œil à l'autre d'un coup de pierre. Enfin, il avait marché jour et nuit, se cachant dans les marais, dans les bois, comme une bête sauvage. Il avait traversé la Saxe et la Bohême, et il était sauvé, il m'était rendu. Ah, que nous fûmes heureux pendant tout l'hiver, malgré notre pauvreté et la rigueur de la saison. Nous n'avions qu'une inquiétude, c'était de voir reparaître dans nos environs ces oiseaux de proie qui avaient été la cause de tous nos maux. Nous faisions le projet d'aller à Vienne, de nous présenter à l'impératrice, de lui raconter nos malheurs, afin d'obtenir sa protection, du service militaire pour mon mari et quelques subsistances pour moi et mon enfant. Mais je tombais malade par suite de la révolution que j'avais éprouvée en revoyant mon pauvre Karl. Et nous fûmes forcés de passer tout l'hiver et tout l'été dans nos montagnes, attendant toujours le moment où je pourrais entreprendre le voyage, nous tenant toujours sur nos gardes et ne dormant jamais que d'un œil. Enfin, ce bienheureux moment était venu. Je me sentais assez forte pour marcher, et ma petite fille, qui était souffrante aussi, devait faire le voyage dans les bras de son père. Mais notre mauvais destin nous attendait à la sortie des montagnes. Nous marchions tranquillement et lentement au bord d'un chemin peu fréquenté, sans faire attention à une voiture qui, depuis un quart d'heure, montait lentement le même chemin que nous. Tout à coup, la voiture s'arrête et 3 hommes en descendent. « Est-ce bien lui ?» s'écrie l'un. « Oui !» répond l'autre qui était borgne. « C'est bien lui ! Su ! Su !» Mon mari se retourne à ses paroles et me dit « Ah ! Ce sont les Prussiens ! Voilà le borgne que j'ai fait, je le reconnais !»« Cours ! Cours ! » lui dis-je, « Sauve-toi !» Il commençait à s'enfuir lorsqu'un de ces hommes abominables s'élance sur moi, me renverse, place un pistolet sur ma tête et sur celle de mon enfant. Sans cette idée diabolique, mon mari était sauvé, car il courait mieux que ces bandits et il avait de l'avance sur eux. Mais au cri qui m'échappa, en voyant ma fille sous la gueule du pistolet, Karl se retourne, fait de grands cris pour arrêter le coup et revient sur ses pas. Quand le scélérat qui tenait son pied sur mon corps vit Karl à portée, « Rends-toi !» lui cria-t-il, « ou je les tue. Fais un pas de plus pour te sauver et c'est fait. »« Je me rends, me voilà !» répond mon pauvre homme. Et il se mit à courir vers eux plus vite qu'il ne s'était enfui, malgré les prières et les signes que je lui faisais pour qu'il nous laissât mourir. Quand ces tigres le tinrent entre leurs mains, ils l'accablèrent de coups et le mirent tout en sang. Je voulais le défendre, ils me maltraitèrent aussi. En le voyant garrotter sous mes yeux, je sanglotais, je remplissais l'air de mes gémissements. Ils me dirent qu'ils allaient tuer ma petite si je ne gardais le silence, et ils l'avaient déjà arrachée de mes bras lorsque Karl me dit « Tais-toi, femme, je te l'ordonne, songe à notre enfant !» J'obéis. Mais la violence que je me fis en voyant frapper, lier et bâillonner mon mari, tandis que ces monstres me disaient « Oui, oui, pleure, tu ne le reverras plus, nous le menons pendre !» fut si violente que je tombai comme morte sur le chemin. J'y restai je ne sais combien d'heures, étendue dans la poussière. Quand j'ouvris les yeux, il faisait nuit. Ma pauvre enfant, couchée sur moi, se tordait en sanglotant d'une façon à fendre le cœur. Il n'y avait plus sur le chemin que le sang de mon mari et la trace des roues de la voiture qu'il avait emportée. Je restais encore là une heure ou deux, essayant de consoler et de réchauffer Maria, qui était transie et moitié morte de peur. Enfin, quand les idées me revinrent, je songeai que ce que j'avais de mieux à faire, ce n'était pas de courir après les ravisseurs que je ne pourrais atteindre, mais d'aller faire ma déclaration aux officiers de Wissenbach, qui était la ville la plus prochaine. C'est ce que je fis. Et ensuite, je résolus de continuer mon voyage jusqu'à Vienne et d'aller me jeter aux pieds de l'impératrice, afin qu'elle empêchât du moins que le roi de Prusse ne fît exécuter la sentence de mort contre mon mari. Sa Majesté pouvait le réclamer comme son sujet, dans le cas où l'on ne pourrait atteindre les recruteurs. J'ai donc usé de quelques aumônes qu'on m'avait faites sur les terres de l'évêque de Passau, où j'avais raconté mon désastre, pour gagner le Danube dans une charrette, et de là, j'ai descendu en bateau jusqu'à la ville de Melk. Mais à présent, mes ressources sont épuisées. Les personnes auxquelles je dis mon aventure ne veulent guère me croire, et dans le doute, si je ne suis pas une intrigante, me donnent si peu qu'il faut que je continue ma route à pied. Heureuse si j'arrive dans 5 ou 6 jours sans mourir de lassitude, car la maladie et le désespoir m'ont épuisée. Maintenant, mes chers enfants, si vous avez le moyen de me faire quelque petite aumône, donnez-la-moi tout de suite, car je ne puis me reposer davantage. Il faut que je marche encore, et encore, comme le juif errant, jusqu'à ce que j'aie obtenu justice. Oh, ma pauvre femme, ma bonne femme! S'écria Consuelo en serrant la pauvresse dans ses bras et en pleurant de joie et de compassion. « Courage, courage, espérez, tranquillisez-vous. Votre mari est délivré. Il galope vers Vienne sur un bon cheval, avec une bourse bien garnie dans sa poche. »«
Qu'est-ce que vous dites ? »
s'écria la femme du déserteur, dont les yeux devinrent rouges comme du sang et les lèvres tremblantes d'un mouvement convulsif.
« Vous le savez ? Vous l'avez vu ? Oh mon Dieu, grand Dieu, Dieu de bonté !»«
Hélas, que faites-vous ? » dit Joseph à Consuelo. « Si vous alliez lui donner une fausse joie, si le déserteur que nous avons contribué à sauver était un autre que son mari. »«
C'est lui-même, Joseph, je te dis que c'est lui. Rappelle-toi, le borgne, rappelle-toi la manière de procéder du pistole. Souviens-toi que le déserteur a dit qu'il était père de famille et sujet autrichien. D'ailleurs, il est bien facile de s'en convaincre. Comment est-il, votre mari ?
Roux, les yeux verts, la figure large, 5 pieds 8 pouces de haut, le nez un peu écrasé, le front bas, un homme superbe.
C'est bien cela, dit Consuelo en souriant. Et quel habit ?
Une méchante casaque verte, un haut de chausses brun, des bas gris.
C'est encore cela.
Et les recruteurs, avez-vous fait attention à eux ?
Oh, si j'y ai fait attention, Sainte Vierge, leurs horribles figures ne s'effaceront jamais de devant mes yeux.
La pauvre femme fit alors avec beaucoup de fidélité le signalement de pistola, du borgne et du silencieux.
Il y en avait, dit-elle, un quatrième qui restait auprès du cheval et qui ne se mêlait de rien. Il avait une grosse figure indifférente, qui me paraissait encore plus cruelle que les autres, car pendant que je pleurais et qu'on battait mon mari en l'attachant avec des cordes comme un assassin, ce gros-là chantait et faisait la trompette avec sa bouche comme s'il eût sonné une fanfare. Brum, 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 brum. Ah, quel cœur de fer!
Eh bien, c'est meilleur, dit Consuelo à Joseph. En doutes-tu encore? N'a-t-il pas ce tic de chanter et de faire la trompette à tout moment ?
C'est vrai, dit Joseph. C'est donc Karl que nous avons vu délivré. Grâce soit rendue à Dieu.
Ah oui, grâce au bon Dieu avant tout, dit la pauvre femme en se jetant à genoux.
Et toi, Maria, dit-elle à sa petite fille, baise la terre avec moi pour remercier les anges gardiens et la Sainte Vierge. Ton papa est retrouvé. Et nous allons bientôt le revoir.
Dites-moi, chère femme, observa Consuelo, Karl a-t-il aussi l'habitude de baiser la terre quand il est bien content ?
Oui, mon enfant, il n'y manque pas. Quand il est revenu après avoir déserté, il n'a pas voulu passer la porte de notre maison sans en avoir baisé le seuil.
Est-ce une coutume de votre pays ?
Non, c'est une manière à lui qu'il nous a enseignée et qui nous a toujours réussi.
C'est donc bien lui que nous avons vu, reprit Consuelo, car nous lui avons vu baiser la terre pour remercier ceux qui l'avaient délivré. Tu l'as remarqué, Beppo ?
Parfaitement, c'est lui, il n'y a plus de doute possible.
Venez donc que je vous presse contre mon cœur, s'écria la femme de Karl. Oh, vous deux, anges du paradis, qui m'apportez une pareille nouvelle, mais contez-moi donc cela.
Joseph raconta tout ce qui était arrivé.
Et quand la pauvre femme eut exhalé tous ses transports de joie et de reconnaissance envers le ciel et envers Joseph et Consuelo, qu'elle considérait avec raison comme les premiers libérateurs de son mari, elle leur demanda ce qu'il fallait faire pour le retrouver. « Je crois, lui dit Consuelo, que vous ferez bien de continuer votre voyage. C'est à Vienne que vous le trouverez, si vous ne le rencontrez pas en chemin. Son premier soin sera d'aller faire sa déclaration à sa souveraine et de demander dans les bureaux de l'administration qu'on vous signale en quelque lieu que vous soyez. Il n'aura pas manqué de faire les mêmes déclarations dans chaque ville importante où il aura passé et de prendre des renseignements sur la route que vous avez tenue. Si vous arrivez à Vienne avant lui, ne manquez pas de faire savoir à l'administration où vous demeurez, afin que Karl en soit informé aussitôt qu'il s'y présentera. « Mais quel bureau ! Quelle administration ! Je ne connais rien à tous ces usages-là, une si grande ville. Je m'y perdrais, moi, pauvre paysanne. »« Tenez, dit Joseph, nous n'avons jamais eu d'affaires qui nous aient mis au courant de tout cela non plus. Mais demandez au premier venu de vous conduire à l'ambassade de Prusse. Demandez-y, monsieur le baron de... »« Prends garde à ce que tu vas dire, Beppo !» dit Consuelo tout bas à Joseph pour lui rappeler qu'il ne fallait pas compromettre le baron dans cette aventure. « Eh bien, le comte de Auditz, reprit Joseph. « Oui, le comte, il fera par vanité ce que l'autre eût fait par dévouement. Demandez la demeure de la margrave, princesse de Bareit, et présentez à son mari le billet que je vais vous remettre. » Consuelo arracha un feuillet blanc du calepin de Joseph et traça ces mots au crayon. Consuelo Porporina, prima donna du théâtre de San Samuel, à Venise, ex-signor Bertoni, chanteur ambulant à Passau, recommande au noble cœur du comte Auditz Roswald la femme de Karl, le déserteur que sa seigneurie a tiré des mains des recruteurs et comblé de ses bienfaits. La Porporina se promet de remercier monsieur le comte de sa protection, en présence de madame la margrave, si monsieur le comte veut bien l'admettre à l'honneur de chanter dans les petits appartements de son Altesse. » Consuelo mit la suscription avec soin et regarda Joseph. Il la comprit et tira sa bourse. Sans se consulter autrement, et d'un mouvement spontané, ils donnèrent à la pauvre femme les 2 pièces d'or qui leur restaient du présent de Trank, afin qu'elle pût faire la route en voiture, et ils la conduisirent jusqu'au village voisin, où ils l'aidèrent à faire son marché pour un modeste voiturin. Après qu'ils l'eurent fait manger et qu'ils lui eurent procuré quelques effets, dépenses prises sur le reste de leur petite fortune, ils embarquèrent l'heureuse créature qu'ils venaient de rendre à la vie. Alors, Consuelo demanda en riant ce qui restait au fond de la bourse. Joseph prit son violon, le secoua auprès de son oreille et répondit « Rien que du son !» Consuelo essaya sa voix en pleine campagne par une brillante roulade et s'écria « Il reste beaucoup de son !» Puis elle tendit joyeusement la main à son confrère et la serra avec effusion en lui disant « Tu es un brave garçon, Beppo !»« Et toi aussi !» répondit Joseph en essuyant une larme et en faisant un grand éclat de rire. Chapitre 75. Il n'est pas fort inquiétant de se trouver sans argent quand on touche au terme d'un voyage. Mais eussent-ils été encore bien loin de leur but, nos jeunes artistes ne se seraient pas sentis moins gais qu'ils ne le furent lorsqu'ils se virent tout à fait à sec. Il faut s'être trouvé ainsi sans ressources en pays inconnu. Joseph était presque aussi étranger que Consuelo à cette distance de Vienne. Pour savoir quelle sécurité merveilleuse, quel génie inventif et entreprenant se révèle, comme par magie, à l'artiste qui vient de dépenser son dernier sou. Jusque-là, c'est une sorte d'agonie, une crainte continuelle de manquer, une noire appréhension de souffrance, d'embarras et d'humiliation qui s'évanouissent dès que la dernière pièce de monnaie a sonné. Alors, pour les âmes poétiques, il y a un monde nouveau qui commence. Une sainte confiance en la charité d'autrui, beaucoup d'illusions charmantes. Mais aussi une aptitude au travail et une disposition à l'aménité qui font aisément triompher des premiers obstacles. Consuelo, qui portait dans ce retour à l'indigence de ses premiers ans un sentiment de plaisir romanesque et qui se sentait heureuse d'avoir fait le bien en se dépouillant, trouva tout de suite un expédient pour assurer le repas et le gîte du soir. « C'est aujourd'hui dimanche, » dit-elle à Joseph. « Tu vas jouer des airs de danse en traversant la première ville que nous rencontrerons. Nous ne ferons pas deux rues sans trouver des gens qui auront envie de danser, et nous ferons les ménétriers. Est-ce que tu ne sais pas faire un pipeau ? J'aurai bientôt appris à m'en servir, et pourvu que j'en tire quelques sons, ce sera assez pour t'accompagner. »
« Si je sais faire un pipeau !» s'écria Joseph.
« Vous allez voir !» On eut bientôt trouvé au bord de la rivière une belle tige de roseau, qui fut percée industrieusement et qui résonna merveille. L'accord parfait fut obtenu, la répétition suivit, et nos gens s'en allèrent, bien tranquilles, jusqu'à un petit hameau à 3 000 de distance où ils firent leur entrée au son de leurs instruments, et en criant devant chaque porte « Qui veut danser ? Qui veut sauter ? Voilà la musique, voilà le bal qui commence !» Ils arrivèrent sur une petite place plantée de beaux arbres. Ils étaient escortés d'une quarantaine d'enfants qui les suivaient au pas de marche, en criant et en battant des mains. Bientôt, de joyeux couples vinrent enlever la première poussière en ouvrant la danse. Et avant que le sol fût battu, toute la population se rassembla et fit cercle autour d'un bal champêtre improvisé sans hésitation et sans condition. Après les premières valses, Joseph mit son violon sous son bras et Consuelo, montant sur sa chaise, fit un discours aux assistants pour leur prouver que des artistes à jeun avaient les doigts mous et la laine courte. 5 minutes après, ils avaient à discrétion pain, laitage, bière et gâteau. Quant au salaire, on fut bientôt d'accord. On devait faire une collecte où chacun donnerait ce qu'il voudrait. Après avoir mangé, ils remontèrent donc sur un tonneau qu'on roula triomphalement au milieu de la place. Et les danses recommencèrent. Mais au bout de 2 heures, elles furent interrompues par une nouvelle qui mit tout le monde en émoi et arriva de bouche en bouche jusqu'au ménétrier. Le cordonnier de l'endroit, en achevant à la hâte une paire de souliers pour une pratique exigeante, venait de se planter son haleine dans le pouce. C'est un événement grave, un grand malheur, leur dit un vieillard appuyé contre le tonneau qui leur servait de piédestal. C'est Gottlieb, le cordonnier, qui est l'organiste de notre village, et c'est justement demain notre fête patronale. Oh, la grande fête, la belle fête. Il ne s'en fait pas de pareil à 10 lieues à la ronde. Notre messe, surtout, est une merveille, et l'on vient de bien loin pour l'entendre. Gottlieb est un vrai maître de chapelle. Il tient l'orgue, il fait chanter les enfants, il chante lui-même. Que ne fait-il pas, surtout ce jour-là ? Il se met en 4. Sans lui, tout est perdu. Et que dira monsieur le chanoine, monsieur le chanoine de Saint-Étienne, qui vient lui-même officier à la grand-messe, et qui est toujours si content de notre musique ? Car il est fou de musique, ce bon chanoine, et c'est un grand honneur pour nous que de le voir à notre hôtel, lui qui ne sort guère de son bénéfice et qui ne se dérange pas pour peu. « Eh bien, dit Consuelo, il y a moyen d'arranger tout cela. Mon camarade ou moi, nous nous chargeons de l'orgue, de la maîtrise, de la messe en un mot. Et si monsieur le chanoine n'est pas content, on ne nous donnera rien pour notre peine. »
Hé, dit le vieillard, vous en parlez bien à votre aise, jeune homme. Notre messe ne se dit pas avec un violon et une flûte. Oui, da, c'est une affaire grave, et vous n'êtes pas au courant de nos partitions.
Nous nous y mettrons dès ce soir, dit Joseph en affectant un air de supériorité dédaigneuse qui imposa aux auditeurs groupés autour de lui.
Voyons, dit Consuelo, conduisez-nous à l'église. Que quelqu'un souffle l'orgue, et si vous n'êtes pas content de notre manière d'en jouer, vous serez libre de refuser notre assistance.
Mais la partition, le chef-d'œuvre d'arrangement de Gottlieb. nous irons trouver Gottlieb, et s'il ne se déclare pas content de nous, nous renonçons à nos prétentions. D'ailleurs, une blessure au doigt n'empêchera pas Gottlieb de faire marcher ses chœurs et de chanter sa partie. » Les anciens du village qui s'étaient rassemblés autour d'eux tinrent conseil et résolurent de tenter l'épreuve. Le bal fut abandonné. La messe du chanoine était un bien autre amusement, une bien autre affaire que la danse. Hind et Consuelo, après s'être essayés alternativement sur l'orgue et après avoir chanté ensemble et séparément, furent jugés des musiciens fort passables à défaut de mieux. Quelques artisans osèrent même avancer que leur jeu était préférable à celui de Gottlieb et que les fragments de Scarlatti, de Pergolèse et de Bach qu'on venait de leur faire entendre étaient pour le moins aussi beaux que la musique de Holzbauer, dont Gottlieb ne voulait pas sortir. Le curé, qui était accouru pour écouter, alla jusqu'à déclarer que le chanoine préférerait beaucoup ses chants à ceux dont on le régalait ordinairement. Le sacristain, qui ne goûtait pas cet avis, hocha tristement la tête. Et pour ne pas mécontenter ses paroissiens, le curé consentit à ce que les deux virtuoses, envoyées par la Providence, s'entendissent, s'il était possible, avec Gottlieb pour accompagner la messe. On se rendit en foule à la maison du cordonnier. Il fallut qu'il montrât sa main enflée à tout le monde pour qu'on le tînt quitte de remplir ses fonctions d'organiste. L'impossibilité n'était que trop réelle à son gré. Gottlieb était doué d'une certaine intelligence musicale et jouait de l'orgue passablement. Mais gâté par les louanges de ses concitoyens et l'approbation un peu railleuse du chanoine, il mettait un amour-propre épouvantable à sa direction et à son exécution. Il prit de l'humeur quand on lui proposa de le faire remplacer par deux artistes de passage. Il aimait mieux que la fête fût manquée et la messe patronale privée de musique que de partager les honneurs du triomphe. Cependant, il fallut céder. Il feignit longtemps de chercher la partition et ne consentit à la retrouver que lorsque le curé le menaça d'abandonner aux deux jeunes artistes le choix et le soin de toute la musique. Il fallut que Consuelo et Joseph fissent preuve de savoir en lisant à livre ouvert les passages réputés les plus difficiles de celles des 26 messes de Holzbauer qu'on devait exécuter le lendemain. Cette musique, sans génie et sans originalité, était du moins bien écrite et facile à saisir, surtout pour Consuelo qui avait surmonté tant d'autres épreuves plus importantes. Les auditeurs furent émerveillés. Et Gottlieb, qui devenait de plus en plus soucieux et morose, déclara qu'il avait la fièvre et qu'il allait se mettre au lit, enchanté que tout le monde fût content. Aussitôt, les voix et les instruments se rassemblèrent dans l'église et nos deux petits maîtres de chapelle improvisés dirigèrent la répétition. Tout alla au mieux. C'était le brasseur, le tisserand, le maître d'école et le boulanger du village qui tenaient les quatre violons. Les enfants faisaient les chœurs avec leurs parents, tous bons paysans ou artisans, pleins de flegme, d'attention et de bonne volonté. Joseph avait entendu déjà de la musique de Holzbauer à Vienne, où elle était en faveur à cette époque. Il n'eut pas de peine à s'y mettre. Et Consuelo, faisant alternativement sa partie dans toutes les reprises du chant, mena les chœurs si bien qu'ils se surpassèrent eux-mêmes. Il y avait deux solos que devaient dire le fils et la nièce de Gottlieb, ses élèves favoris, et les premiers chanteurs de la paroisse. Mais ces deux coryphées ne parurent point, sous prétexte qu'ils étaient sûrs de leur affaire. Joseph et Consuelo allèrent souper au presbytère, où un appartement leur avait été préparé. Le bon curé était dans la joie de son âme, et l'on voyait qu'il tenait extrêmement à la beauté de sa messe pour plaire à monsieur le chanoine. Le lendemain, tout était en rumeur dans le village dès avant le jour. Les cloches sonnaient à grande volée, les chemins se couvraient de fidèles arrivés du fond des campagnes environnantes pour assister à la solennité. Le carrosse du chanoine approchait avec une majestueuse lenteur. L'église était revêtue de ses plus beaux ornements. Consuelo s'amusait beaucoup de l'importance que chacun s'attribuait. Il y avait là presque autant d'amour-propre et de rivalités en jeu que dans les coulisses d'un théâtre. Seulement, les choses se passaient plus naïvement et il y avait plus à rire qu'à s'indigner. Une demi-heure avant la messe, le sacristain, tout effaré, vint leur révéler un grand complot tramé par le jaloux et perfide Gottlieb. Ayant appris que la répétition avait été excellente et que tout le personnel musical de la paroisse était engoué des nouveaux venus, il se faisait très malade et défendait à sa nièce et à son fils, les deux coryphées principaux, de quitter le chevet de son lit, si bien qu'on n'aurait ni la présence de Gottlieb, que tout le monde jugeait indispensable pour se mettre en train, ni les solos, qui étaient le plus bel endroit de la messe. Les concertants étaient découragés, et c'était avec bien de la peine que lui, sacristain précieux et affairé, les avait réunis dans l'église pour tenir conseil. Consuelo et Joseph coururent les trouver, firent répéter les endroits périlleux, soutinrent les parties défaillantes et rendirent à tous confiance et courage. Quant au remplacement des solos, ils s'entendirent bien vite ensemble pour s'en charger. Consuelo chercha et trouva dans sa mémoire un chant religieux du Porpora qui s'adaptait au ton et aux paroles du solo exigé. Elle l'écrivit sur son genou et le répéta à la hâte avec Hind, qui se mit ainsi en mesure de l'accompagner. Elle lui trouva aussi un fragment de Sébastien Bach qu'il connaissait et qu'ils arrangèrent, tant bien que mal, à eux deux pour la circonstance. La messe sonna qu'il répétait encore et s'entendait en dépit du vacarme de la grosse cloche. Quand monsieur le chanoine, revêtu de ses ornements, parut à l'autel, les chœurs étaient déjà partis et galopaient le style figuré du germanique compositeur avec un aplomb de bon augure. Consuelo prenait plaisir à voir et à entendre ces bons prolétaires allemands avec leurs figures sérieuses, leurs voix justes, leur ensemble méthodique et leur verve, toujours soutenue, parce qu'elle est toujours contenue dans de certaines limites. « Voilà, dit-elle à Joseph dans un intervalle, les exécutants qui conviennent à cette musique-là. S'ils avaient le feu qui a manqué au maître, tout irait de travers, mais ils ne l'ont pas, et les pensées forgées à la mécanique sont rendues par des pièces de mécanique. » Pourquoi l'illustre maestro Oditz Roswald n'est-il pas ici pour faire fonctionner ces machines? Il se donnerait beaucoup de mal, ne servirait à rien et serait le plus content du monde. Le solo de voix d'homme inquiétait bien des gens. Joseph s'en tira merveille. Mais quand vint celui de Consuelo, cette manière italienne les étonna d'abord, les scandalisa un peu et finit par les enthousiasmer. La cantatrice se donna la peine de chanter de son mieux, et l'expression de son chant, large et sublime, transporta Joseph jusqu'aux cieux. « Je ne peux croire, lui dit-il, que vous ayez jamais pu mieux chanter que vous venez de le faire pour cette pauvre messe de village. Jamais, du moins, je n'ai chanté avec plus d'entrain et de plaisir, lui répondit-elle. Ce public m'est plus sympathique que celui d'un théâtre. Maintenant, laisse-moi regarder de la tribune si monsieur le chanoine est content. » « Oui, il a tout à fait l'air béat, ce respectable chanoine. Et à la manière dont tout le monde cherche sur sa physionomie la récompense de ses efforts, je vois bien que le bon Dieu est le seul ici dont personne ne songe à s'occuper. » « Acceptez-vous, Consuelo. La foi et l'amour divin peuvent seuls inspirer des accents comme les vôtres. » Quand les deux virtuoses sortirent de l'église après la messe, il s'en fallut de peu que la population ne les portât en triomphe jusqu'au presbytère, où un bon déjeuner les attendait. Le curé les présenta à monsieur le chanoine, qui les combla d'éloges et voulut entendre encore, après boire, le solo du Porpora. Mais Consuelo, qui s'étonnait avec raison que personne n'eût reconnu sa voix de femme et qui craignait l'œil du chanoine, s'en défendit sous prétexte que les répétitions et sa coopération active à toutes les parties du cœur l'avaient beaucoup fatigué. L'excuse ne fut pas admise et il fallut comparaître au déjeuner du chanoine. Monsieur le chanoine était un homme de 50 ans, d'une belle et bonne figure, fort bien fait de sa personne, quoique un peu chargé d'embonpoint. Ses manières étaient distinguées, nobles même. Il disait à tout le monde en confidence qu'il avait du sang royal dans les veines, étant un des 400 bâtards d'Auguste II électeur de Saxe et roi de Pologne. Il se montra gracieux et affable, autant comme du monde et personnage ecclésiastique doit l'être. Joseph remarqua à ses côtés un séculier qu'il paraissait traiter à la fois avec distinction et familiarité. Il sembla à Joseph avoir vu ce dernier à Vienne, mais il ne put mettre, comme on dit, son nom sur sa figure. « Eh bien, mes chers enfants, dit le chanoine, vous me refusez une seconde audition du thème de Porpora. Voici pourtant un de mes amis, encore plus musicien et 100 fois meilleur juge que moi, qui a été bien frappé de votre manière de dire ce morceau. Puisque vous êtes fatigué, ajouta-t-il en s'adressant à Joseph, je ne vous tourmenterai pas davantage, mais il faut que vous ayez l'obligeance de nous dire comment on vous appelle et où vous avez appris la musique. » Joseph vit qu'on lui attribuait l'exécution du solo que Consuelo avait chanté, et un regard expressif de celle-ci lui fit comprendre qu'il devait confirmer le chanoine dans cette méprise. « Je m'appelle Joseph, répondit-il brièvement, et j'ai étudié à la maîtrise de Saint-Étienne. « Et moi aussi, reprit le personnage inconnu, j'ai étudié à la maîtrise, sous Rotter le père, vous sans doute sous Rotter le fils. » « Oui, monsieur. Mais vous avez eu ensuite d'autres leçons? Vous avez étudié en Italie? » « Non, monsieur. C'est vous qui avez tenu l'orgue? » « Tantôt moi, tantôt mon camarade. » « Et qui a chanté? » « Nous deux. » « Fort bien, mais le thème du Porpora, ce n'est pas vous, » dit l'inconnu, tout en regardant Consuelo de côté. « Bah, ce n'est pas cet enfant-là, » dit le chanoine en regardant aussi Consuelo. « Il est trop jeune pour savoir aussi bien chanter. »« Aussi, ce n'est pas moi, c'est lui, » répondit-elle brusquement en désignant Joseph. Elle était pressée de se délivrer de ses questions et regardait la porte avec impatience. « Pourquoi dites-vous un mensonge, mon enfant ?» dit naïvement le curé. « Je vous ai déjà entendu et vu chanter hier, et j'ai bien reconnu l'organe de votre camarade Joseph dans le solo de Bach. » « Allons, vous vous serez trompé, monsieur le curé, » reprit l'inconnu avec un sourire fin. « Ou bien ce jeune homme est d'une excessive modestie. Quoi qu'il en soit, nous donnons des éloges à l'un et à l'autre. » Puis, tirant le curé à l'écart, « Vous avez l'oreille juste, » lui dit-il, « mais vous n'avez pas l'œil clairvoyant. Cela fait honneur à la pureté de vos pensées. Cependant, il faut vous détromper. Ce petit paysan hongrois est une cantatrice italienne fort habile. » « Une femme déguisée ? » s'écria le curé stupéfait. Il regarda Consuelo attentivement, tandis qu'elle était occupée à répondre aux questions bienveillantes du chanoine. Et, soit plaisir, soit indignation, le bon curé rougit depuis son rabat jusqu'à sa calotte. « C'est comme je vous le dis, » reprit l'inconnu. « Je cherche en vain qui elle peut être, je ne la connais pas. » Et quant à son travestissement et à la condition précaire où elle se trouve, je ne puis les attribuer qu'à un coup de tête. Affaire d'amour, monsieur le curé, ceci ne nous regarde pas. Affaire d'amour, comme vous dites fort bien, reprit le curé fort animé. Un enlèvement, une intrigue criminelle avec ce petit jeune homme. Mais tout cela est fort vilain. Et moi qui ai donné dans le panneau, moi qui les ai logés dans mon presbytère. Heureusement, je leur avais donné des chambres séparées, et j'espère qu'il n'y aura point eu de scandale dans ma maison. Ah, oh, quelle aventure! Et comme les esprits forts de ma paroisse, car il y en a, monsieur, j'en connais plusieurs, riraient à mes dépens s'ils savaient cela. Si vos paroissiens n'ont pas reconnu la voix d'une femme, il est probable qu'ils n'en ont reconnu ni les traits ni la démarche. Voyez pourtant quelles jolies mains, quelles chevelures soyeuses, quels petits pieds malgré les grosses chaussures. « Je ne veux rien voir de tout cela, » s'écria le curé hors de lui. « C'est une abomination que de s'habiller en homme. Il y a dans les Saintes Écritures un verset qui condamne à mort tout homme ou femme coupable d'avoir quitté les vêtements de son sexe. À mort, entendez-vous, monsieur? C'est indiqué et assez l'énormité du péché. » Avec cela, elle a osé pénétrer dans l'église et chanter effrontément les louanges du Seigneur, le corps et l'âme souillés d'un crime pareil. Et elle les a chantées divinement. Les larmes m'en sont venues aux yeux, Je n'ai jamais entendu rien de pareil. Étrange mystère. Quelle peut être cette femme? Toutes celles que je pourrais supposer sont plus âgées de beaucoup que celle-ci.
C'est une enfant, une toute jeune fille,
reprit le curé, qui ne pouvait s'empêcher de regarder Consuelo avec un intérêt combattu dans son cœur par l'austérité de ses principes.
Oh, le petit serpent! Voyez donc de quel air doux et modeste elle répond à monsieur le chanoine. Ah, je suis un homme perdu si quelqu'un ici a découvert la fraude. Il me faudra quitter le pays.
Comment? Ni vous ni aucun de vos paroissiens n'avez-vous pas reconnu le timbre d'une voix de femme?
Vous êtes des auditeurs bien simples.
Mais que voulez-vous? Nous trouvions bien quelque chose d'extraordinaire dans cette voix, mais Gottlieb disait que c'était une voix italienne, qu'il en avait entendu déjà d'autres comme cela, que c'était une voix de la chapelle Sixtine.
Je ne sais ce qu'il entendait par là, je ne m'entends pas à la musique qui sort de mon rituel, et j'étais à 100 lieues de me douter.
Que faire, monsieur? Que faire?
Si personne n'a de soupçons, je vous conseille de ne vous vanter de rien. Et conduisez ces enfants au plus vite. Je me charge, si vous voulez, de vous en débarrasser.
Oh oui, vous me rendrez service. Tenez, tenez, je vais vous donner l'argent. Combien faut-il leur donner?
Ceci ne me regarde pas. Nous autres, nous payons largement les artistes. Mais votre paroisse n'est pas riche, et l'église n'est pas forcée d'agir comme le théâtre.
Je ferai largement les choses. Je leur donnerai 6 florins. Je vais tout de suite...
Mais que va dire monsieur le chanoine? Il semble ne s'apercevoir de rien. Le voilà qui parle avec elle tout paternellement, le saint homme.
Franchement, croyez-vous qu'il serait bien scandalisé?
Comment ne le serait-il pas? D'ailleurs, ce que je crains, ce ne sont pas tant ses réprimandes que ses railleries. Vous savez comme il aime à plaisanter, il a tant d'esprit. Oh, comme il va se moquer de ma simplicité!
Mais s'il partage votre erreur, comme jusqu'ici il en a l'air, il n'aura pas le droit de vous persifler.
Allons, ne faites semblant de rien. Approchons-nous et saisissez un moment favorable pour faire éclipser vos musiciens.
Ils quittèrent l'embrasure de croisée où ils s'étaient entretenus de la sorte, et le curé, se glissant près de Joseph, qui paraissait occuper le chanoine beaucoup moins que le signor Bertoni, il lui mit dans la main les 6 florins. Dès qu'il tint cette modeste somme, Joseph fit signe à Consuelo de se dégager du chanoine et de les suivre dehors. Mais le chanoine, rappelant Joseph et persistant à croire, d'après ses réponses affirmatives, que c'était lui qui avait la voix de femme.
« Dites-moi donc, lui demanda-t-il, pourquoi vous avez choisi ce morceau de Porpora au lieu de chanter le solo de M. Holzbauer ?»
Nous ne l'avions pas, nous ne le connaissions pas, répondit Joseph. J'ai chanté la seule chose de mes études qui fut complète dans ma mémoire.
Le curé s'empressa de raconter la petite malice de Gottlieb, et cette jalousie d'artiste fit beaucoup rire le chanoine.
Eh bien, dit l'inconnu, votre bon cordonnier nous a rendu un très grand service. Au lieu d'un mauvais solo, nous avons eu un chef-d'œuvre d'un très grand maître. Vous avez fait preuve de goût,
ajouta-t-il en s'adressant à Consuelo.
Je ne pense pas, répondit Joseph, que le solo de Holzbauer pût être mauvais. Ce que nous avons chanté de lui n'était pas sans mérite.
Le mérite n'est pas le génie, répliqua l'inconnu en soupirant. Et s'acharnant à Consuelo, il ajouta.
Qu'en pensez-vous, mon petit ami? Croyez-vous que ce soit la même chose?
Non, monsieur, je ne le crois pas, répondit-elle laconiquement et froidement, car le regard de cet homme l'embarrassait et l'importunait de plus en plus.
Mais vous avez eu pourtant du plaisir à chanter cette messe de Holzbauer, reprit le chanoine.
C'est beau, n'est-ce pas?
Je n'en ai eu ni plaisir ni déplaisir, repartit Consuelo, à qui l'impatience donnait des mouvements de franchise irrésistibles.
C'est dire qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, s'écria l'inconnu en riant.
« Eh bien, mon enfant, vous avez fort bien répondu, et mon avis est conforme au vôtre. »
Le chanoine se mit à rire aux éclats. Le curé parut fort embarrassé, et Consuelo, suivant Joseph, s'éclipsa sans s'inquiéter de ce différend musical.
« Eh bien, monsieur le chanoine, » dit malignement l'inconnu dès que les musiciens furent sortis. « Comment trouvez-vous ces enfants ?»«
Charmant, admirable !»
Je vous demande bien pardon de dire cela après le paquet que le petit vient de vous donner. »
Moi, je le trouve adorable, cet enfant-là. Quel talent pour un âge si tendre, c'est merveilleux. Quelle puissante et précoce nature que ces natures italiennes.
Je ne puis rien vous dire du talent de celui-là, reprit le chanoine d'un air fort naturel. Je ne l'ai pas trop distingué. C'est son compagnon qui est un merveilleux sujet. Et celui-là est de notre nation, n'en déplaise à votre italianomanie.
Ah, ça ! Dit l'inconnu en clignotant de l'œil pour avertir le curé.
C'est donc décidément l'aîné qui nous a chanté du porporin ?
Je le présume, répondit le curé, tout troublé du mensonge auquel on le provoquait.
J'en suis sûr, moi, reprit le chanoine. Il me l'a dit lui-même.
Et l'autre solo ? Reprit l'inconnu. C'est donc quelqu'un de votre paroisse qui l'a dit ?
Probablement, répondit le curé en faisant un effort pour soutenir l'imposture. Tous deux regardèrent le chanoine pour voir s'il était leur dupe ou s'il se moquait d'eux. Il ne paraissait pas y songer. Sa tranquillité rassura le curé. On parla d'autre chose. Mais au bout d'un quart d'heure, le chanoine revint sur le chapitre de la musique et voulut revoir Joseph et Consuelo, afin, disait-il, de les emmener à sa campagne et de les entendre à loisir. Le curé, épouvanté, balbutia des objections inintelligibles. Le chanoine lui demanda en riant s'il avait fait mettre ses petits musiciens dans la marmite pour compléter le déjeuner, qui lui semblait bien assez splendide sans cela. Le curé était au supplice. L'inconnu vint à son secours.
« Je vais vous les chercher, » dit-il au chanoine.
Et il sortit, en faisant signe au bon curé, de compter sur quelque expédient de sa part. Mais il n'eut pas la peine d'en imaginer un. Il apprit de la servante que les jeunes artistes étaient déjà partis à travers champs après lui avoir généreusement donné un des 6 florins qu'il venait de recevoir.
« Comment parti ? »
s'écria le chanoine avec beaucoup de chagrin. « Il faut courir après eux. Je veux les revoir. Je veux les entendre. Je le veux absolument. » On fit semblant d'obéir, mais on eut garde de courir sur leurs traces. Ils avaient d'ailleurs pris leur route à vol d'oiseau, pressés de se soustraire à la curiosité qui les menaçait. Le chanoine en éprouva beaucoup de regrets et même un peu d'humeur.
« Dieu merci, il ne se doute de rien !» dit le curé à l'inconnu.
« Curé !» répondit celui-ci. « Rappelez-vous l'histoire de l'évêque, qui, faisant gras par inadvertance un vendredi, en fut averti par son grand vicaire.
« Le malheureux !» s'écria l'évêque. « Ne pouvait-il se taire jusqu'à la fin du dîner ?
Nous aurions peut-être dû laisser monsieur le chanoine se tromper à son aise !»